La première.
13h15, 14h30.
Un jour dans l'histoire.
Laurent de Hausset.
Nous sommes le 19 septembre 1987 à Tokyo, 3 mois avant sa mort. Lors d'une conférence qu'elle donne sur le thème du voyage, Marguerite Yourcenar déclare « La connaissance de mondes étrangers, que ce soit dans le temps ou dans l'espace, a pour résultat de détruire l'étroitesse d'esprit et les préjugés, mais aussi l'enthousiasme naïf qui nous faisait croire en l'existence de paradis et la notion que nous étions quelqu'un. » Une vingtaine d'années plus tôt, en mai 68, celles et ceux qui découvrent L'œuvre au noir, son nouveau livre, peuvent y lire. Il n'existe aucun accommodement durable entre ceux qui cherchent, pèsent, dissèquent et s'honorent d'être capables de penser demain autrement qu'aujourd'hui, et ceux qui croient ou affirment croire et obligent, sous peine de mort, leurs semblables à en faire autant. On va s'éclairer aujourd'hui à la pensée de Marguerite Yourcenar.
La première,
13h15, 14h30,
un jour dans l'histoire.
Le bonheur est un sous-produit. Le bonheur, en tant qu'il a une valeur quelconque, consiste à faire à peu près bien ce qu'on est destiné à faire.
Un extrait d'une émission Radioscopie de France Inter. On reviendra à la place du bonheur dans la vie de Marguerite Yourcenar tout à l'heure avec Michel Gosselaar qui est notre invité. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, Michel, la fondatrice du Centre international de documentation Marguerite Yourcenar, le CIDMI, et vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Yourcenar en images, donc une riche iconographie dans cet album. Marguerite Yourcenar qui vient au monde le 8 juin 1903 à Bruxelles. Yourcenar, c'est l'anagramme d'une partie de son nom, hein. Créancourt. Alors avant de revenir à sa biographie proprement dite, un mot à son rapport à la publicité, à la médiatisation de sa personne. C'est quelqu'un qui parle très très peu d'elle-même au fond.
Ah, elle a toujours caché ce qu'elle était. Elle a toujours été très très prudente sur ce qu'elle disait d'elle-même. Et elle a accepté les interviews à partir des années 70 parce qu'on parlait d'elle à l'Académie française, entre autres, pour son entrée. Ouais. Mais c'est pas quelqu'un qui aimait énormément les interviews.
Mais elle a beaucoup contrôlé son image, n'empêche.
Absolument. Elle n'a fait que ça. Si vous lisez les préfaces de ses œuvres, les postfaces, ce sont tous des moyens qu'elle a utilisés pour diriger un peu la lecture de ses œuvres. Elle était très très autoritaire à ce niveau-là, en tout cas.
Alors, naissance donc en 1908 dans le milieu de l'ancienne bourgeoisie. Son père est originaire de Flandre française. Sa mère, elle, est issue de la noblesse. Une mère qui meurt alors à 11 jours après la naissance de Marguerite. Elle a beaucoup répété que sa mère ne lui avait pas manqué. Est-ce qu'on peut la croire ?
Non, elle l'a dit tellement souvent que ça devenait très trouble et très inquiétant. Et j'ai fait des recherches à ce sujet. Je me suis rendu compte que jusqu'en 1956, donc à 53 ans, puisqu'elle est de 1903, elle a fêté son anniversaire la veille de la date exacte de l'anniversaire, le 7 juin au lieu du 8 juin. Et je l'ai interprété comme une façon de dire, vous savez, c'est pas moi qui ai tué ma mère, moi je suis née la veille, donc j'ai rien à voir là-dedans. Or, j'ai des papiers d'elle pour son baccalauréat à 17 ans, pour son retour en Belgique en 1929, où la date de naissance est très, très nettement indiquée. Donc, c'est elle qui a caché la chose, et je pense que la mort de la mère a été pour elle un drame.
Je disais 1908, c'est bien 1903, hein, la 1903. Date de sa naissance. Élevée à la dure par une grand-mère maternelle dont elle fera un portrait aussi acide, hein, dans son livre Archives du Nord. Un père anticonformiste, un grand voyageur, il l'emmène avec lui dans ses voyages. Quelle influence a ce père ?
Oh, énorme, parce que dès qu'elle sait marcher, Marguerite Yourcenar l'accompagne partout. D'abord des petits voyages, et puis j'ai des photos, elle est à Monaco à 4 ans devant le casino, qui aimait beaucoup son père. Il a une grosse influence, à la fois positive, c'est-à-dire que c'est la brebis galeuse de la famille de Crayancourt. C'est l'aventurier, c'est l'homme qui compte pas son argent, qui aime dépenser. D'ailleurs, il va mourir en 29 ruiné, il n'aura plus un sou, et Yourcenar non plus, elle va devoir venir ici récupérer l'héritage l'héritage de sa mère. Et, mais en même temps, c'est un homme assez extraordinaire. C'est un homme qui a l'esprit très ouvert, qui ne juge jamais personne, qui a des idées très avancées. Pour lui, la religion, bon, ça existe, mais enfin sans plus, etc., etc. Donc c'est un peu son modèle philosophique, son modèle culturel, parce que c'était un homme très, très cultivé, qui lisait beaucoup. Et ça, c'est aussi un homme fort absent, dont elle va souffrir. Elle va souffrir de ses absences. Et comme vous dites, elle va être beaucoup confiée pendant son enfance à Noémie Dufresne, la mère de son père, qu'elle appelait l'abîme mesquin dans Archives du Nord. Et finalement, elle va être avec son père, les deux personnages de la famille de Crayencourt qui détonnent un peu. Et d'ailleurs, quand elle est entrée à l'académie, on l'appelait encore la tante Margot dans la famille. Et la famille considérait que c'était une bohémienne, qu'être écrivain, c'est pas un métier, etc., etc. Quoi.
Mais la rigueur qu'elle a, ce serait le côté de la grand-mère.
Non, je pense pas. La grand-mère, c'était plutôt, comme elle le dit, la mesquinerie, aller à l'église, montrer son nouveau chapeau ou son nouveau manteau. Non, elle détestait sa grand-mère. Non, la rigueur, je pense qu'elle en elle. Elle l'avait en elle dès le départ. Et puis son père est un aventurier, mais pas un fantaisiste non plus. Il avait un raisonnement clair. Il savait ce qu'il voulait. Il s'est un peu fait avoir et escroquer à un moment. Mais enfin, non, je crois que ça, c'est sa personnalité, c'est vraiment sa personnalité à elle.
On voit sur les photos une très belle petite fille hein, avec des yeux magnifiques. Et puis très vite, c'est une jeune fille qui s'empâte, qui a un corps qui devient très très lourd. C'est un laisser-aller de sa part ou elle s'en fiche au fond ?
Non, je crois que c'est un signe de... On vous avait dit qu'on allait parler du bonheur, mais c'est un signe de son manque de bonheur, je pense. Surtout, il faut se souvenir que dans Quoi l'éternité, lorsqu'elle parle de son enfance, elle titre le chapitre Les miettes de l'enfance. Et quand elle parle de l'amour, elle parle des miettes de l'amour. Donc c'est une enfant qui a quand même été fort seule, à cause de son père très aventurier. Il a quand même eu beaucoup de maîtresses, il y a eu beaucoup de femmes qui sont passées dans sa vie, qui ne se sont pas tardée, donc elle avait des raisons d'être un peu malheureuse. La première, c'est la disparition de la mère, bien entendu, qu'elle a dû ressentir comme un crime à sa naissance. La seconde, c'est que vers 7 ans, elle avait un chien qui s'appelait Trir, parce que son père et sa mère l'avaient acheté à Trèves pendant leur voyage de noces. Et c'était le seul élément vivant qu'elle avait de sa mère. Et la grand-mère, un jour, a décidé que le chien était malade et qu'il fallait le tuer. Et à la campagne, au Mont Noir, on n'appelle pas un vétérinaire, on ne fait pas une euthanasie, on prend un fusil et on tire entre les deux yeux. Et elle ne s'est même pas rendue compte qu'on allait tuer son chien. Elle n'a pas eu le temps de s'en occuper avant, etc. Et alors, il y a eu un troisième élément dans son enfance qui l'a beaucoup marqué. C'est qu'elle avait une bonne qui s'appelait Barbe Hartz, qui venait de Marline, et la bonne arrondissait ses fins de mois, si vous me comprenez. Et elle amenait la petite au cinéma pendant qu'elle faisait sa jambe en l'air. Et un jour, elle s'est dit, c'est un peu dangereux quand même de laisser la petite. Alors, il y avait déjà un premier problème, c'est que quand on entrait à la maison, au château, il fallait raconter au père la même version de ce qu'on avait fait dans l'après-midi. Et puis, elle s'est dit, c'est trop dangereux, elle l'a amenée carrément au bordel avec elle. Et Marguerite Yourcenar, la petite Marguerite, on la mettait sur une table, comme elle était petite, et on lui demandait de réciter des poèmes, et elle récitait le trésor des humbles de Interlinque. Et elle, ça ne la choquait pas plus que ça. Sauf qu'un jour, il y a une lettre anonyme qui est arrivée au château. On a fait vite une réunion de famille et on a renvoyé Barbe Hartz, qui était quand même sa mère de remplacement pendant 7 ans. Ouais. Ce qui est quand même extraordinaire. Et la petite Marguerite n'a pas apprécié parce qu'en fait, on l'a emmenée en promenade et quand elle est rentrée de la promenade, on lui a dit Barbe est partie et on lui a menti. On a dit qu'elle était allée se marier, etc. Ce qui n'est pas vrai. J'ai fait une enquête. Et en réalité... elle a disparu à cette époque-là pendant 16 mois à Londres. Et je me demandais pourquoi le père, qui aimait tant sa fille, avait accepté la chose. Et j'ai su que Barbe Hartz était enceinte. Donc je laisse le point d'interrogation. Est-ce que c'est la maison close ou est-ce que c'est Monsieur de Crayencourt ? C'était une très jolie femme, il faut dire.
Les blessures donc, de Marguerite Yourcenar, vous l'avez dit, un bonheur qui semble lui échapper perpétuellement. Nous sommes avec Michel Gosselaar.
Il y a un moment où l'artiste sent très bien qu'on ne peut plus ajouter le moindre coup de pouce à l'œuvre d'art, qu'elle est aussi bien que son faible mérite lui permet de le faire. Mais d'autre part, quand il s'agit de l'œuvre littéraire, il y a une très longue période pendant laquelle l'œuvre n'est pas terminée. En ce sens, on pourrait toujours y ajouter, non pas tellement pour l'améliorer, mais pour l'enrichir, pour donner d'autres détails, amplifier à l'aide d'autres épisodes qui ne la transforment pas en quelque sorte, mais l'approfondissent, nous donnent une idée plus profonde des personnages et des événements.
Et qu'est-ce qui vous dit qu'un livre est terminé alors ?
Je pense que ça doit être à peu près le même sentiment que la cuisinière qui pense qu'il y a assez de sel dans le mets qu'elle veut offrir.
13h15, 14h30.
Un jour dans l'histoire.
Sur la première.
Et Marguerite Yourcenar qui mettra parfois plusieurs années à terminer un livre. On y reviendra avec vous, Michel Gosselaar. Ici, c'était une archive de la Sonuma qui date de 1971. Michel Klenwerk, De Créancourt, cet homme impulsif qui s'abandonne sans hésiter à tous les hasards, écrit Marguerite Yourcenar à propos de son père, meurt à Lausanne en 1929. Elle a un peu plus de 20 ans. Il faut préciser que Marguerite Yourcenar a très peu vécu en Belgique, au fond.
Ah, très très peu, quelques semaines après sa naissance, puis elle est arrivée au Mont-Noir avec son père. Elle a quand même repris un appartement avenue Louise, un peu plus loin que l'endroit où elle était née, avec la troisième femme de son père, donc sa belle-mère Christine Bronovelt, quand elle est revenue pour l'héritage. Mais Bruxelles ne l'attirait pas. Hein. Elle disait que Bruxelles était une capitale immonde.
C'est à tort qu'on aurait tendance d'en faire un écrivain belge, hein. On a eu cette
tendance. Tout à fait. D'abord, elle ne l'a jamais été, puisqu'elle est née avec la nationalité française, étant d'un père français et d'une mère devenue française par mariage, même si elle s'est mariée à Bruxelles, à Saint-Gilles. Et elle avait le choix de la nationalité à sa majorité. Vous pensez bien qu'elle avait déjà un livre en route. Il était certain qu'elle n'allait pas demander à être belge. Elle est restée française.
Le véritable lieu de naissance est celui où l'on a porté pour la première fois un coup d'œil intelligent sur soi-même. Mes premières patries ont été des livres. Ça, c'est un extrait des Mémoires d'Adrien. C'est une autobiographie. Enfin, en tout cas, cet extrait-là est autobiographique.
Bon, il faut imaginer que même l'œuvre noire qui se passe à la Renaissance, dans tous les personnages, Marguerite Yourcenar s'investit et investit ses propres idées. Donc, elle fait parler Adrien. Mais je me souviens qu'un professeur de l'Université de Bruxelles, lorsqu'il a reçu Adrien, avait dit, je crois que c'est Grégoire, je ne suis pas sûre de son nom, avait dit « oui, tout ce qui est dans Mémoire d'Adrien, c'est réel. Il n'y a pas une seule erreur historique, mais ce n'est pas Adrien. Et ce n'est pas Adrien parce que c'est d'abord Marguerite Yourcenar. Par exemple, il y a un moment où il imagine les guerres futures, ben c'est Yourcenar, bien entendu. Son horreur, elle a raconté qu'elle avait beaucoup de mal à écrire sur la chasse, puisqu'elle était tout à fait anti-chasse, et qu'elle a dû se faire violence à elle-même pour écrire les chapitres sur la chasse. Mais à l'époque, la chasse avait encore de l'honneur.
Les livres, on l'a compris, c'est en tous les cas son paysage, son pays. Quand est-ce qu'elle commence à avoir de l'ambition en littérature, se dire ben « moi aussi je peux être écrivain ».
Oh, ben je pense que ça date de ses 8 ans. Je raconte ça dans ma biographie. Il paraît qu'à 8 ans, c'est elle qui le dit, elle s'est mise devant une glace toute nue et elle s'est dit « je suis importante ». Ces gens-là ne le savent pas, mais je suis importante. Elle ne savait pas en quoi elle serait importante. Mais il faut dire que Yourcenar n'a pas été à l'école. S'est formé uniquement par la lecture, quelques précepteurs et son père qui s'occupait de l'anglais et d'autres choses. Et elle a tout de suite, je pense, rêvé à devenir un écrivain, à ressembler au personnage qu'elle lisait. Et son père l'impliquait énormément dans la lecture. Ce n'était pas une bête lecture, c'était une lecture à haute voix. Et c'était une lecture où on s'impliquait dans les personnages, où on essayait de deviner ce qu'ils allaient devenir, etc. Et je pense qu'elle a été tout à fait formée à l'écriture, entre autres par son père.
Alors, il y a les voyages avec son père, et puis plus tard, seule encore. Comment voyage-t-elle ? Alors, elle découvre toute l'Europe, et puis on le verra bien sûr les États-Unis. Comment voyage-t-elle ? Elle voyage seule, dans quelles conditions, dans quel état d'esprit ?
Oh ben je pense que jeune, elle a beaucoup voyagé seule. D'après moi, elle a découvert la Villa Tivoli d'Adrien seule en 1924. Elle voyage avec son père quand elle est fort fort jeune. Et après, je pense qu'elle se fait toujours des amis pour voyager avec elle. La seule chose qui est étonnante, c'est qu'elle refuse, enfin c'est pas étonnant en fait, elle refuse de voyager en avion pendant très longtemps. Elle voyage uniquement en bateau. travaux des États-Unis vers l'Europe, etc. Et je pense que c'est un choix qu'elle a fait parce que elle ne voulait pas passer d'un endroit X à un autre endroit à toute vitesse, avec des changements de température, des changements de paysage. Mmh. Elle voulait que ce soit assez progressif, donc elle préférait le train, elle préférait le bateau. Et il faut attendre les années 80, après la mort de Grace Frick, pour que Jerry Wilson la pousse à prendre enfin l'avion. Et c'est comme ça qu'au début, elle prend encore le bateau, et puis à la fin, elle prend l'avion, ce qui lui donne des possibilités de destination beaucoup plus lointaines, comme Grace le Frick. Japon, l'Inde, etc.
Grace Frick qui sera sa compagne, on y reviendra bien sûr. Alors, elle parcourt l'Europe, et puis en 1937, elle découvre les États-Unis et le Canada. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un coup de foudre au départ.
Non, le Canada, elle a des textes sur le Canada où elle dit c'est un des lieux du monde où on n'aimerait pas descendre du train pour s'installer. Elle trouve que le Canada est dur, et pour elle, le Canada, c'est aussi l'endroit où on tue les bébés phoques, où l'homme est dur parce que la nature est dure, etc. Les États-Unis, elle dit que New York, c'est un enfer, etc. Donc non, elle n'apprécie pas particulièrement. Par contre, lorsqu'elle arrive dans les années 40, à Mont-Désert, là où elle va s'installer, sur l'île des Mont-Désert. Là, tout change, parce que l'île des Mont-Désert, la grande partie de l'île, les deux tiers, c'est un parc naturel, Acadia Park. Et là, Marguerite Yourcenar écrit même, dans la préface de La Petite Sirène, une première pièce de théâtre, qu'elle est passée de l'histoire à la géologie et de l'homme à la nature, à la terre. Donc ça a été un passage assez important. Et je suis souvent allée à Petite Plaisance et je comprends. Je comprends parce que là, c'est la nature, c'est les roches, c'est la mer, c'est la géologie, ouais. Effectivement.
On va revenir à son rapport à la nature, au Mont-Désert, dans le Maine. On est là, dans le nord-est des États-Unis, à la frontière avec le Québec. Marguerite Yourcenar, on poursuit le voyage avec elle et avec Michel Gosselaar.
Les femmes de l'ancien régime, reines des salons et plutôt des ruelles, n'avaient pas songé à franchir votre seuil, et peut-être eussent-elles cru déchoir, en le faisant, de leur souveraineté féminine. Elles inspiraient les écrivains, les régentaient parfois, et fréquemment ont réussi à faire entrer l'un de leurs protégés dans votre compagnie, coutume qui, m'assure-t-on, dure jusqu'à nos jours. Elles se souciaient fort peu d'être elles-mêmes candidates. On ne peut donc prétendre que dans cette société française, si imprégnée d'influence féminine, l'Académie ait été misogyne. Elle s'est simplement conformée aux usages qui volontiers plaçaient la femme sur un piédestal, mais ne permettaient pas encore de lui avancer officiellement un fauteuil.
Un jour dans l'histoire.
Extrait du discours de réception de Marguerite Yourcenar à l'Académie française le 22 janvier 1981. Elle sera effectivement la première femme assiégée dans cette assemblée que l'on dit des immortels. 1937, Michel Gosselaar, c'est aussi l'année de la rencontre avec Grace Frick, qui est professeure d'anglais et de littérature britannique. Elle sera sa compagne durant 40 années. Qui est Grace Frick?
Grace Frick, c'est une Américaine qui rencontre Marguerite Yourcenar tout à fait par hasard à Paris, où elle est venue voir une nièce qui est au couvent et qui est à l'agonie. Et elle est dans le même hôtel que Marguerite Yourcenar, le Wagram. Et dans le bar, Marguerite Yourcenar discute avec Boudeau Lamotte, son éditeur. Et Grace Frick tend l'oreille et trouve cette femme assez intéressante, avec une voix, comme on l'a entendu, assez étrange, une façon de s'exprimer assez étrange en français. Et elle intervient dans la conversation à un moment donné, parce qu'il parle de voyage en Amérique, etc. Et elle propose ses services en disant, si vous voulez aller en Amérique, je connais, je viens de là, etc. Et très vite, le lien se fait. Et alors, ça c'est la petite anecdote, mais le soir, elle rentre dans sa chambre et sur le toit d'en face, il y a des oiseaux. Et ils avaient parlé d'animaux, etc. Et elle envoie le chasseur dire à Mademoiselle de Crayoncourt qu'il y a des oiseaux sur le toit. Et Mademoiselle de Crayoncourt vient voir les oiseaux. Et puis, ils discutent de ce qu'ils vont faire dans l'avenir. Et Grisefruit dit, bon, moi, je fais ce que je veux. Je reste ou je rentre aux États-Unis. J'ai le temps. Et Marguerite d'Oursenard dit, moi, je pars demain pour l'Espagne. Et deux jours après, ils débarquent ensemble en Espagne. Mmh. Et l'aventure, avec une rupture quand même vers les années 30, 39, 40, enfin 38, 39, l'aventure va durer jusqu'à la mort de Grisefruit en 1979.
Puisque Marguerite d'Oursenard la rejoindra à la déclaration, enfin un peu avant la guerre, aux États-Unis, et elles vont donc faire chemin ensemble. La notion de terroir chez Marguerite d'Oursenard, vous disiez son attachement aux grands espaces, dans le Maine notamment, avec un respect pour toutes les créatures au fond de la nature. Quel est son attachement au terroir? Est-ce que c'est une notion qui existe chez elle?
Non, elle disait, j'ai une douzaine de patries. Elle disait, j'aurais pu vivre ailleurs. J'ai un texte où elle dit, petite plaisance, les États-Unis, c'est là où je peux garager mes livres. Donc, non, elle n'avait pas d'attache particulière, sauf pour les îles. Elle aimait beaucoup les îles. Mais elle a toujours dit, j'aurais pu vivre en Angleterre, j'aurais pu vivre n'importe où, à la Côte d'Azur, comme elle faisait avec son père. Non, elle n'a pas d'attache.
En tout cas,
et d'ailleurs, elle oublie même quand elle prend la nationalité américaine en 1947, elle oublie de sauver sa nationalité française, ce qui posera un gros problème pour son entrée à l'académie, bien sûr.
Mais elle est pour un monde sans frontières, justement, dépouillée de toute frontière, dit-elle.
Je dirais oui et non, parce que d'un autre côté, elle a beaucoup le sens de la différence entre les pays, de la différence des civilisations, de la différence des croyances. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles elle voyageait lentement, c'était justement pour découvrir les différences entre les différents pays. Et je ne pense pas qu'elle aurait aimé que la mondialisation d'aujourd'hui, ou quand on va au Japon, on est dans le même hôtel qu'à Bruxelles ou à Paris, parce que tout s'est uniformisé. Elle, ce qu'elle recherchait dans chaque pays, c'était les différences, bien entendu. Et les différences, entre autres, de prier Dieu et les différences qu'il y avait entre les dieux des différents pays.
C'est aussi quelqu'un qui vient de l'Ancien Monde, qui débarque en Amérique, qui est à l'époque le pays de la modernité. Est-ce que pour elle, c'est,